Vous écoutez France Culture, il est 9h.
Le journal vous est présenté par Benoît Bouscarel.
Bonjour à toutes et à tous. À Calais, les opérations de démantèlement de la jungle débutent demain et à J-1, les réfugiés se préparent à être orientés vers des centres d'accueil répartis en France. Les bénévoles et travailleurs sociaux, de leur côté, tentent de répondre aux nombreuses questions qui se posent. Reportage à suivre dans ce journal de notre envoyé spécial, Adrien Taufollet. Manuel Valls retente le coup de la gauche qui peut mourir. Le Premier ministre, qui était à Tours hier soir, a cette fois parlé d'un risque de pulvérisation à la présidentielle. Si les rangs de la gauche ne sont pas resserrés d'ici l'an prochain. Julie-Marie Lecomte a suivi son discours pour nous. Dans cette édition, nous ferons le point sur la situation en Irak et en Syrie. L'Irak, où l'offensive sur Mossoul se poursuit malgré la résistance de l'organisation État islamique. La Syrie, où Alep est à nouveau sous les bombes depuis hier soir. On rejoindra notre envoyé spécial sur place, Valérie Crova. Dans 24 heures, le démantèlement si souvent annoncé de la jungle de Calais va débuter. Les opérations doivent durer plusieurs jours, peut-être toute la semaine. Et si la vie ressemble à celle des mois précédents, dans le plus grand bidonville de France, les préparatifs pour cette évacuation hors normes vont bon train. Le reportage d'Adrien Taufollet, l'envoyé spécial de France Culture.
Depuis l'annonce du jour du démantèlement, c'est le branle-bas de combat chez les associations. Ici, à Calais, des centaines et des centaines de réfugiés se pressent toute la journée pour trouver auprès d'eux informations sur le déroulement des opérations de lundi, informations sur leurs droits, un dernier cours de français et de l'équipement, chaussures, pulls et sacs de voyage. Clara Mosley est la fondatrice de Care for Calais. On veut que ce soit le moins brutal possible pour eux. On leur donne des vêtements d'hiver pour préparer leur périple. Ils sont effrayés, ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve. Car bien entendu, ils ne veulent pas être dispersés dans toute la France. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont ici. Malgré la menace de démantèlement, la vie du camp suit son cours, comme si rien n'allait arriver. On danse, on joue. Iniatola est afghan et n'y croit pas une seconde. On nous l'a déjà dit plein de fois, la jungle sera évacuée demain ou dans un mois. Mais c'est jamais arrivé. Moi je te le dis, j'en suis sûr, la jungle, c'est pas terminé. Murid Tran, lui, vient de récupérer deux valises parmi les toutes dernières distribuées. Ça, c'est en cas d'urgence, car je n'ai pas de sac. 16 ans, pakistanais, sans famille, il habite la jungle depuis 2 mois et n'a pas encore choisi entre la fuite pour atteindre l'Angleterre, son rêve, ou la demande d'asile. Tout le monde parle de la police qui va venir lundi et va évacuer la jungle. Moi, je vais voir. Si je ne peux pas aller en Angleterre, je demanderai l'asile ici pour être protégé. Mais seulement si je suis sûr que la jungle, c'est bel et bien fini. Pourtant, lundi, deux choix s'offriront à eux, le centre d'accueil ou le centre de rétention, pour ceux qui ne seront pas partis avant en tout cas.
Adrien Taufollet. Jean-Marc Falcon comprend l'exaspération des policiers et partage la quasi-totalité de leurs revendications. C'est ce qu'il affirme dans les colonnes du journal du dimanche aujourd'hui, après une semaine de manifestations dans plusieurs villes de France. C'était le cas encore hier soir. Le directeur général de la police nationale promet un plan de sécurité publique, notamment pour moderniser les moyens des forces de l'ordre. L'armement sera renouvelé, la protection des véhicules améliorée et les missions de la police seront également revues. Toutes ces annonces faisant partie des propositions que le patron de la police française doit faire à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, la semaine prochaine. Manuel Valls continue à jouer son rôle favori et à se poser en rassembleur de la gauche dans la perspective de la présidentielle de l'an prochain. Une gauche à qui il prédit un risque de pulvérisation. Julie-Marie Lecomte a assisté au discours que le Premier ministre prononçait à Tours hier soir.
À Tours, le chef de la majorité a trouvé des militants déboussolés.
On n'est pas heureux, on va le dire comme ça.
C'est devenu compliqué.
Là, maintenant, non. Comment je vais faire pour faire du porte-à-porte, pour convaincre les gens qu'il fallait voter Hollande, je voterai blanc.
Personnellement, je préférais qu'il dise qu'il se retire. Je finis par l'avouer.
Et si ce n'est pas lui, il faudrait qu'il laisse la possibilité rapidement à d'autres de se positionner clairement.
Impossible pour l'instant, mais hier, le Premier ministre a quand même fait contrepoids à ce président qui désormais divise même les plus fidèles.
Aujourd'hui, mon rôle, c'est de rassembler.
Et pour le prouver, Manuel Valls soigne sa gauche, défense des migrants, revenu universel, lutte contre les inégalités et la caisse sociale promise selon lui par la droite.
C'est pas un discours qui est habituel chez Manuel Valls. On disait que c'était la droite du parti et là son discours, c'était pas la droite du parti. On se doute bien que c'est dans les tuyaux que François Hollande n'y aille pas.
Ira pas en tout cas. Hier, Manuel Valls a fait une promesse.
Je ne laisserai jamais tomber ma famille politique. Jamais. tomber la gauche.
Détour élégant pour dire, comme il l'aurait déjà fait en petit comité, qu'à la minute où François Hollande renoncera, il sera candidat.
Reportage de Julie-Marie Lecomte. Les forces irakiennes qui ont lancé l'assaut sur Mossoul il y a maintenant une semaine ne seraient plus qu'à 5 km des faubourgs de la deuxième ville d'Irak, c'est en tout cas ce qu'elles affirment. Soutenues par une coalition internationale sous commandement américain, elles disent également avoir repris la ville chrétienne de Karakoche ainsi que celle de Bartala. Et par ailleurs, elles sont toujours en opération pour tenter de réduire les derniers djihadistes qui s'étaient lancés vendredi dans une manœuvre de diversion à Kirkouk. En Syrie, à Alep, les combats et les bombardements ont repris de plus belle hier, marquant la fin d'une trêve qui n'en a pas été vraiment une, ou en tout cas qui n'a manifestement servi que de prétexte à des objectifs militaires. L'envoyé spécial à Alep de France Culture, Valérie Crova.
Des frappes aériennes, des combats au sol, des tirs d'obus. À peine la trêve était-elle terminée qu'Alep renouait avec la guerre. La pause humanitaire de 3 jours n'aura servi à rien. Chaque camp a accusé l'autre d'avoir bloqué l'évacuation des habitants d'Alep Est et d'avoir profité de la trêve pour renforcer ses effectifs militaires. Selon un général russe, 1200 combattants rebelles seraient arrivés en renfort dans le but de lever le siège d'Alep par l'armée syrienne. Les opposants, eux, redoutent que le régime et son allié russe lancent rapidement une vaste offensive pour reprendre les quartiers contrôlés par les rebelles. Offensive qui pourrait provoquer une catastrophe humanitaire pour les dizaines de milliers d'Alepins de l'Est en manque de tout. Les bombardements de ces dernières semaines ont déjà fait 500 morts et 2000 blessés.
Correspondance de Valérie Crova. 50 milliards d'euros d'investissement, 16 ans de travaux souvent perturbés. Le site pétrolier de Kasagan au Kazakhstan entre en activité aujourd'hui. Ce qui a souvent été présenté comme un défi technologique et financier a été marqué surtout par de nombreux retards et aboutit aujourd'hui sur un début d'exploitation dans un contexte marqué par des cours du pétrole historiquement bas. Les explications de Claude Guibal.
Lorsqu'on découvre Kashagan dans les années 90, l'excitation est à son comble. Un gisement de cette taille-là, on n'en a pas vu depuis près de 30 ans. Des dizaines de milliards de barils potentiellement exploitables. On est dans les années 90, c'est la fin de l'Union soviétique, le rideau de fer vient de tomber. Le Kazakhstan, dans les eaux duquel se situe le gisement, peut se frotter les mains. Tous les géants du pétrole se précipitent. Un chantier gigantesque se met en place, mais la belle épopée très vite prend du plomb dans l'aile. Les contraintes techniques et géologiques sont en fait colossales. La nappe peu profonde est délicate à extraire. Il faut traiter le brut, riche en gaz toxique, et puis il y a la glace. Le gisement est situé en pleine mer Caspienne et elle est gelée la moitié de l'année. Il faut donc le protéger de la banquise en construisant un mur. En 2013, enfin, les travaux sont achevés, mais l'exploitation doit s'arrêter aussitôt à cause de fuites d'hydrocarbures. 3 ans plus tard, et après des dépassements terribles, l'exploitation commence enfin, mais avec les prix du pétrole en chute libre, il faudra désormais du temps, beaucoup de temps, pour que le monstre pétrolier atteigne son seuil de rentabilité.
Au Cameroun, l'enquête va débuter pour déterminer la cause du déraillement d'un train qui a fait plus de 70 morts et près de 600 blessés vendredi. Le bilan s'est encore alourdi hier. Le train de la compagnie Camrail, dont l'actionnaire principal est le groupe Bolloré, était parti de la capitale Yaoundé pour rejoindre le port de Douala. En Côte d'Ivoire, le référendum constitutionnel se prépare avec hier le lancement de la campagne officielle. Un an après sa réélection, le président Alassane Ouattara veut modifier la loi suprême et tourner la page des années de crise politique et militaire qu'a connu le pays depuis 2011, ou jusqu'en 2011. C'était une des promesses de campagne du président, mais le texte qu'il prévoit est loin de faire l'unanimité. Les principaux partis d'opposition appellent au boycott de la consultation populaire qui est prévue pour dimanche prochain à Abidjan. Arnaud Froger.
Dans la capitale économique ivoirienne, chaque camp a réussi à rassembler plus d'une dizaine de milliers de supporters ce week-end. Les partisans du oui étaient réunis au stade d'Abidjan où Alassane Ouattara les a appelés à se mobiliser massivement, car si l'adoption de cette constitution semble acquise, la participation s'annonce faible. Le texte a été dévoilé il y a à peine 3 semaines dans un pays où la moitié de la population est illettrée. Une méthode qualifiée de passage en force par l'opposition, plusieurs partis appellent d'ailleurs à en empêcher la tenue de ce référendum dimanche prochain. Sur le fond, là où les partisans du président défendent un projet qui modernise et stabilise la Côte d'Ivoire avec la création d'un poste de vice-président, d'un Sénat et d'une limite à 2 mandats pour le chef de l'État, les détracteurs de cette Troisième République dénoncent au contraire un projet inutile et archaïque avec la levée de la limite d'âge pour se présenter à l'élection présidentielle. Dimanche prochain, 6 300 000 électeurs seront appelés aux urnes. Seule la moitié d'entre eux avaient fait le déplacement pour l'élection présidentielle de 2015 à laquelle l'opposition participait.
Arnaud Froger, des pluies dans le sud ce matin, la façade ouest ne sera pas épargnée. L'Île-de-France non plus d'ailleurs dans le courant de la journée. Le temps sera souvent perturbé sur la France aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas quelques belles éclaircies. Température maximale 16 degrés pour la moitié nord, 24 degrés sur le sud.